soir, chers amis. Je suis plutôt émue. Je ne suis pas une conférencière, mais simplement je vais vous faire un exposé. Et donc c'est plutôt une causerie qu'une conférence. Je n'ai pas la prétention d'être conférencière, mais par contre, en ce qui concerne Yad Vashem, évidemment j'ai pratiqué longtemps Yad Vashem et je peux vous donner quelques précisions en ce qui concerne cette fondation. Alors l'Institut Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem a été fondé, merci, a été fondé le 19 août 1953, créé à Jérusalem sur le mont du souvenir, où reposent à jamais les fondateurs de l'État d'Israël, tels Theodor Herzl, Golda Meir, Ben Gurion, qui en fut le président. L'institut commémoratif s'appelle celui des martyrs et des héros de la Shoah. Yad Vashem, un nom tiré du chapitre 5 du prophète Isaïe, et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un nom, Shem, et un lieu qui ne seront pas effacés. En 1963, une commission, présidée par un juge de la Cour suprême de l'État d'Israël, est alors chargée d'attribuer le titre de juste parmi les nations, la plus haute distinction civile décernée par l'État hébreu à des personnes non juives qui, au péril de leur vie, ont aidé des juifs persécutés par l'occupant nazi. Les personnes ainsi distinguées doivent avoir procuré, au risque conscient de leur vie, de celle de leurs proches, et sans demande de contrepartie, une aide véritable à une ou plusieurs personnes juives en situation de danger. Au cours d'une cérémonie officielle, le représentant de l'ambassade d'Israël remet aux justes parmi les nations ou à leurs ayants droit une médaille gravée à leur nom ainsi qu'un diplôme d'honneur libellé en hébreu et en français. Leurs noms sont inscrits sur le mur d'honneur des justes parmi les nations de Yad Vashem à Jérusalem. Les noms des justes de France sont également inscrits à Paris dans l'allée des justes près du mémorial de la Shoah, rue Geoffroy Lanier. De cela, il y a seulement quelques années. En ce qui me concerne, comme je fus la troisième personne de Haute-Savoie à recevoir ce titre en 1973, après M. Defoe, le maire d'Annemasse, en fait il n'était pas maire, il était président de la délégation spéciale, et il s'est mis tout entier au service de la résistance. Il y eut donc en premier M. Defoe, le maire d'Annemasse, et M. le chanoine Amédée Follet, curé de la basilique des Fins à Annecy. C'était alors l'époque où il y avait assez de terrain à Yad Vashem pour planter des arbres, un caroubier. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux aménagements des jardins, cela n'est plus possible et l'on inscrit les noms des promus d'après cette période sur des plaques de marbre apposées sur les murs de soutien des jardins. Quant à moi, j'avais en 1975 planté mon arbre portant mon nom, car il y avait peu de justes à cette époque et la place ne manquait pas. L'on comptait 320 000 juifs en France en 1940. 75 000 ont été déportés, 2251 seulement sont revenus, pas un seul enfant, car les 11 000 enfants juifs déportés de France ont tous été gazés. Il faut dire que si les trois quarts des juifs de France ont été sauvés, cela est dû aux engagements résistants de la population française, ce qui fut une lumière au sein du combat de ce peuple et vite reconnu. Ce mémorial national des héros et des martyrs de la Shoah, qui fut longtemps présidé par Simone Veil, est un lieu de mémoire exceptionnel contre l'oubli du crime. Il est devenu aujourd'hui un ensemble muséologique édifié sur le mont du souvenir à Jérusalem. Il a son pendant à Washington, mais encore à la dimension à l'américaine, puisque l'ayant aussi visité il y a plusieurs années, il me fallut deux bonnes journées, non pas pour te voir, mais pour en apprécier la diversité et comprendre mieux par là l'histoire du peuple juif et le drame des persécutions envers lui par-delà les siècles. Mais revenons-en à Yad Vashem Jérusalem. Ce mémorial qui fut le socle de tout ce qui a voulu plus tard évoquer la Shoah, il se veut un enseignement pour les générations futures, mais encore une balise d'avertissement contre le retour à l'antisémitisme, la haine et les génocides à travers le monde. Il comprend un musée d'histoire de la Shoah, une salle des noms perpétuant la mémoire des martyrs, une salle du souvenir rappelant les noms des 22 lieux principaux d'extermination, un mémorial fort émouvant évoquant le souvenir d'un 1,5 million d'enfants juifs assassinés, noms égrenés tout au long des jours, des places, des monuments célébrant les héros des ghettos et les partisans. Et sans cette mur de pierre où sont inscrits les noms de 5 000 communautés juives anéanties. C'est aussi un lieu d'exposition temporaire au centre, un centre de documentation important, une médiathèque, une bibliothèque et un centre d'archives le plus complet du monde, avec plus de 4 millions de dossiers consultables pour la recherche sur Internet. Je suis particulièrement émue le jour où, en 1975, après la plantation de mon arbre, l'on m'invita à ranimer la flamme du souvenir, de même que je l'ai ranimé il y a quelques années autour de notre président du prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, à Genève. C'est dire combien cela est dense, et pour comprendre toute l'importance, et pour en comprendre toute l'importance, il faut au moins 2 jours pleins pour la visite. De plus, centre d'études et de recherche internationale où travaillent des centaines d'étudiants, historiens, enseignants. Pour ce faire, des bornes audiovisuelles installées partout, en fonction des lieux géographiques où vivaient les populations juives d'Europe centrale. Ce lieu, largement ouvert aux nouvelles générations, permet d'accéder à des méthodes pédagogiques grâce à des moyens technologiques innovants. Enfin, depuis 1963, Yad Vashem, en hommage aux justes parmi les nations, a créé l'avenue des justes, planté d'arbres à leur nom. J'y ai planté le mien en 1975. Mais ensuite, les noms furent gravés sur des murs, pays par pays, car l'on nomma d'autres justes, le plus souvent à titre posthume. Puis, dans cet immense parc, l'on édifia la vallée des communautés perdues d'Europe centrale, plus particulièrement, dont les populations constituèrent ces millions de victimes anéanties, sacrifiées par l'horrible idéologie nazie au nom d'une soi-disant pureté de la race aryenne, par des hommes pervertis au sein d'un pays, l'Allemagne, qui porta la civilisation humaniste à un haut niveau et dont on peut se demander encore aujourd'hui si ce monstre froid ne risquait pas de réapparaître, tant l'homme est toujours capable du meilleur comme du pire. C'est pourquoi nous devons combattre chaque jour en veilleur pour transmettre le message de Yad Vashem, le faire connaître, l'encourager et le soutenir inlassablement avec foi et l'espoir chevillé au cœur. Voilà, mes amis, ce que j'avais à vous dire sur Yad Vashem. Il y a peut-être quelques questions à poser.
Merci infiniment, chère Jeannette. C'était clair, c'était précis, c'était tout ce que nous pouvions savoir. Et pour ceux qui connaissent, c'était d'une très juste réalité. Mais maintenant, la réalité, si un jour vraiment vous allez en Israël, allez là-bas, car c'est vraiment un lieu très particulier, très, très, très particulier et absolument magnifique, si on peut dire cela, de ce lieu, n'est-ce pas, Jeannette ?
Oui, ça incite à la réflexion.
Avez-vous quelques questions à poser? Je précise aussi qu'il y a eu, une médaille des justes, mais une reconnaissance qui a été exprimée aussi par Yad Vashem envers des juifs qui ont sauvé des leurs. Par exemple, une dame que je connais, qui n'était pas juive, qui a épousé son conjoint, son mari, lequel était juif et qui a pris le risque de devenir juive par ce mariage, et qui par là a été honorée, de même que certaines familles juives que je connais ont eu une récompense qu'on appelait, j'ai oublié le nom, j'ai le nom à la maison, mais qui était une reconnaissance envers des membres de la même communauté qui ont su tendre une main secourable alors qu'ils étaient déjà eux-mêmes dans la difficulté et dans la peine, qui ont su partager avec ces mêmes personnes. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser?
Oui.
J'aurais voulu une petite précision parce que j'ai souvenir que dans cet emplacement de Yad Vashem, il y a toute une série de photos et c'est surtout des photos d'enfants et le nom est... Est-ce que vous pouvez nous rappeler, j'ai un peu oublié pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les photos de tous
les enfants,
de les enfants seulement.
Des 11 000 enfants qui ont été gazés. Par exemple, ici à Annecy, on a déporté.
Et les noms de ces enfants qui ont été recensés, bien sûr, sont pendant 24 heures, pendant toute, imperfectuellement retransmis tant qu'il y a des visiteurs. À longueur de journée, leur nom est rappelé. Et c'est vraiment quelque chose de très émouvant. Et il y avait même dans ces salles, on a construit un bâtiment nouveau en mémoire des enfants, c'est il y a une vingtaine d'années. Il y a même leurs chaussures, il y a même leurs dessins qui sont très bouleversants. Et c'est comme dans les camps de concentration, d'ailleurs, les enfants ont vu de telles horreurs qu'ils les peignaient ou ils les dessinaient, comme on le voit d'ailleurs à les yeux, ces enfants qui ont été témoins d'horreurs telles qu'ils ne savaient pas faire de dessin autre qu'un peu macabre. Et c'est très très émouvant ce rappel dans la salle des enfants. Il y a encore toutes leurs chaussures. Et j'en viens à ceux d'Annecy, ces enfants d'Annecy que l'on a arrêtés, heureusement qu'on a pu en sauver quelques-uns, lors d'une rafle, et il y avait un petit garçon de 3 ans et demi qui était à l'hôtel des Marquisats, lequel n'était pas l'hôtel actuel, bien sûr, c'était un hôtel un peu abandonné, si l'on peut dire, et où on avait mis d'ailleurs des républicains espagnols auparavant. Et ces femmes juives qui étaient là, elles étaient en instance de départ pour l'Allemagne, elles avaient des enfants, et un beau jour, le barbier est venu pour la rafle, et heureusement, il a été retardé parce qu'il est arrivé après la sortie de l'école. Primitivement, il devait probablement, il avait prévu d'arrêter les enfants à la sortie de l'école. Et ils étaient déjà rentrés au Marquisat, et on a déporté des femmes, une femme et son mari, dont le petit garçon de 3 ans et demi est resté seul avec d'autres familles, d'autres mamans juives qu'il ne connaissait pas, et qui, je le voyais, ce petit garçon répétait, appelait sa maman toute la journée. Et cet enfant a été emmené par Barbie, il avait 3 ans et demi, il a été gazé, on a retrouvé sa trace, il a été gazé 5 jours après en arrivant au camp de Auschwitz. C'est vous dire qu'on a fait aucune pitié, même pour les plus jeunes enfants. C'était quelque chose d'innommable de penser qu'un peuple tel l'Allemand a été capable d'avoir un cœur aussi dur, aussi... c'est bien simple, j'ai une amie qui a assisté au... Je m'égare peut-être un peu, mais qui a assisté au procès de Nuremberg. Elle était une traductrice et elle était horrifiée du fait que ces hommes se sont toujours retranchés derrière le fait qu'ils étaient... ils obéissaient aux ordres et qu'ils n'avaient aucun repentir puisqu'ils avaient exécuté ce qu'on leur disait de devoir faire pour le bien de leur pays. Alors c'est dire à quel point ce nazisme avait perverti et endurci les cœurs et les âmes, quoi. Voilà, j'ai répondu à votre question, peut-être.
Oui, Jeannette, est-ce que actuellement il y aurait d'autres dossiers en cours pour des justes parmi les nations à titre posthume? Est-ce que dans les années à venir, on va encore rajouter d'autres noms et que l'histoire va continuer encore à se dévoiler, à se révéler?
Je crois qu'il y aura encore quelques attributions à titre posthume, parce qu'il y a des personnes qui, en fin de vie, veulent retrouver la trace de leur disparu. Et je n'en veux pour preuve le fait que je sois allée l'année dernière à deux reprises à des remises de médailles des justes, l'une à Mégère et l'autre à Chamonix. Et il s'agissait, c'était très touchant. À Mégère, c'est une famille Anard qui a reçu le prix, ça n'a rien à voir avec les marchands d'articles de sport, c'est une vieille famille qui ont gardé une petite fille laquelle leur avait été confiée par le Secours catholique. Cette petite fille est restée attachée à cette famille, et les petits-enfants de cette petite fille qui viennent d'Israël régulièrement chaque année viennent revoir les halards, les petits-enfants de ceux qui ont protégé leur mère. Donc ça a été attribué à titre posthume. Et à Chamonix, c'était encore plus émouvant. J'ai fait la connaissance d'une famille juive qui habite Israël, mais qui s'est attachée à la famille chamoniarde, qui avait gardé leur grand-mère, ou arrière-grand-mère, la grand-mère, laquelle avait 7 ans, et elle avait un nom polonais imprononçable et difficile. Cette famille, Clavet-Tournier, qui l'a accueillie, avait mis cet enfant à l'école primaire de Chamonix, et comme elle avait un nom polonais, difficile à prononcer, elle rentrait chaque jour en pleurant, en disant « on s'est moqué de moi, on s'est moqué de moi », avec le fait qu'on ne savait pas prononcer son nom, elle ne voulait plus retourner à l'école. Ces gens-là, qui étaient des gens modestes, ont eu l'idée de la mettre à l'école privée, l'école Jeanne d'Arc. Alors, on a retrouvé une dame de mon âge à peu près, qui était en classe avec cette petite fille, qui a dévoilé la plaque qu'on a mise à l'école Jeanne d'Arc. Elle a été heureuse comme tout, et ses petits-enfants ont un petit appartement à Chamonix, et viennent toutes les années chez les petits-enfants de ceux qui ont protégé. Et l'Israélien que je connais, qui parle un français remarquable, s'est marié civilement à Chamonix cet été. Il m'avait invité. Et là, ça a été à titre posthume, bien sûr, qu'on a remis. Mais c'est lui qui a cherché, qui a voulu chercher. Et il est tellement attaché maintenant à cet ami, il est devenu accompagnateur en montagne quand il est là l'été. Pour un Israélien, c'est quand même assez curieux. Oui. Il y en aura certainement encore sûrement, parce que moi, c'est plusieurs fois par an, je reçois des lettres de gens qui me disent « J'étais petite fille, j'avais 7 ans, j'étais dans un village de Haute-Savoie où il y avait une église et une fruitière. » J'ai eu beaucoup de peine. J'ai demandé au syndicat des fruitiers, je n'ai jamais retrouvé. Par contre, il y a des personnes qui écrivent encore aujourd'hui. Pourquoi si longtemps après, je ne peux pas vous dire, mais récemment, il y a peu d'années, une famille juive de Villeurbanne me téléphone, il y avait encore le père, il y avait encore un garçon, une dame et deux messieurs. Et ces gens-là me disent, nous ne savions pas comment on périt nos parents, et on a été protégés dans des familles à droite à gauche ou dans des associations, il y en a un qui avait été à Isieux, et qui me dit, nous voudrions bien, nous allons avoir la médaille des justes pour la famille qui a accueilli l'un des garçons. Mais j'ai dit, comment avez-vous fait? Vous n'étiez que des enfants et vous ne saviez pas ce qu'étaient devenus vos parents. S'ils savaient qu'ils étaient morts dans les camps, mais ils avaient de la peine à retrouver la trace. Et ce qui s'est passé, c'est ces gens-là avaient laissé tout leur bien, en tout cas le linge de leurs parents, dans le grenier de voisins, d'une famille voisine. Et cette amie voulait vendre la maison, elle leur a dit venez chercher vos affaires. Ils sortent les vêtements des parents, d'une poche de manteau sort une lettre, avec un timbre, avec l'égide Pétain, c'est-à-dire que ce n'était pas d'aujourd'hui. Cette lettre était adressée à une famille de cheminots de Bourg-Saint-Maurice. Et tout d'un coup, ce petit garçon qui avait 6 ou 7 ans et qui était dans une commune assez au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, a un éclair. Il ne savait plus du tout où il avait été, et là, il a un éclair. Il téléphone le lendemain, son lendemain, et c'est comme ça qu'il a retrouvé trace de cette famille, les descendants de ceux qui l'ont accueilli quand il était petit garçon. Alors voilà comment ça a été très vite fait pour avoir la médaille des justes cette fois-là, avec ce témoignage très probant. Et voilà ce qui arrive encore de temps en temps. Il y a encore des gens qui veulent trouver la trace, qui toute leur vie se sont obstinés, qui sur la fin de leur vie arrivent enfin à une solution positive et veulent que ce soit fait avant qu'ils ne disparaissent. Ouais.
Moi, je voulais me permettre de raconter quelque chose de très très personnel de notre famille, surtout la famille Ventre. Mais Jeannette connaît bien que c'est bien la famille Ventre. Parce qu'effectivement, un couple et un petit garçon, à notre mariage en 63, étaient présents. C'était des juifs, en tout cas le couple, qui n'était pas encore un couple à l'époque de la guerre, que mes beaux-parents avaient aidé, avenue de la Plaine, puisqu'ils habitaient une maison à avenue de la Plaine. Et ils n'ont pas fait qu'aider cette famille, ils ont aidé énormément de gens. Plus tard, personne ne nous a rien dit, ni le jour de notre mariage, ni après, même pas ces personnes. Pourtant, il y avait des gens juifs, c'était pas spécialement un mariage juif, mais quand même, il y avait une bonne ambiance particulière. Klesmer, mais il est sûr qu'ils étaient discrets. Mais ce jeune homme est devenu vraiment un homme, et il a fait une demande pour avoir une médaille des justes pour mes beaux-parents. Et vous avez fait la demande. Et malheureusement, il n'était que le seul témoin, et donc ça n'a pas abouti. Bien, c'est ainsi, c'est pas grave. Moi, je souhaitais vraiment, parce que j'ai entendu beaucoup de choses tout le long de ma vie, tous les Noëls, mes beaux-parents recevaient des cadeaux de gens qu'ils avaient sauvés pendant la guerre, des juifs. Bien, ce qui est sûr, c'est que ça a déclenché quelque chose vis-à-vis de Robert Mauss, qui était le président de la communauté avant son décès. Et effectivement, il a dit, mais ça, ça peut pas être. Moi, j'ai connu la famille Ventre, et même la famille Ventre nous a aidés pendant la guerre. Et de ce fait, il a eu l'idée de faire des recherches. Il a trouvé presque 200 personnes qui ne peuvent pas recevoir la médaille des Juifs de Yad Vashem, mais qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Et il y a un livre qui a été fait. Ben, je vais redonner la parole à Jeannette pour cela.
Oui, bon, j'ai participé à ces recherches. On a écumé tout le département et la région, avec Robert Mauss et d'autres d'ailleurs. On a même récolté plus de 200 témoignages, peut-être davantage. Et alors maintenant, chose étonnante, il y a des cérémonies sans arrêt. Il y en a encore une le 14 juillet à Douvaine. Il y en a une à Végy-Fonsnec. Je crois que le père Barcelline était venu avec nous. Il y avait le général Bachevet. Et on voit arriver à Végy-Fonsnec le maire actuel et le petit-fils d'un monsieur qui est mort en déportation, et pour avoir aidé, pour avoir participé au sauvetage juif dans le sillage de l'abbé Roset, qui est mort en déportation. Et alors on va arriver à Végy-Fonsnec. Ces gens-là sont très sensibilisés, puisqu'il y a un arrière-petit-fils qui est professeur à Sciences Po à Genève maintenant, et qui en a fait une thèse. On va arriver à cette cérémonie qu'on avait organisé avec le général Bachelet, le maire et autres, trois personnes qui arrivent et qui nous disent « Écoutez, nous n'étions que trois jeunes enfants, nous n'avions plus de parents, on n'avait pas de passé, on ne savait rien. Tout ce que nous avons appris par la suite, c'est que si nous avons été sauvés, c'est parce que des gens de la région Savoie nous ont fait passer en Suisse, mais nous n'en savions pas plus. Alors maintenant, nous ne savons pas plus aujourd'hui qu'hier, mais nous savons que c'est ici que nous avons passé. » Et nous savons qu'il y a une cérémonie et nous venons de Metz-Moselle pour remercier cette population en personne. J'ai trouvé ça, ils étaient venus par le train dans la journée. Alors c'est vous dire qu'on retrouve, il y a des gens qui s'obstinent à chercher. Et alors le 14 juillet, on a encore une cérémonie avec encore des descendants, mais il faut des attestations sérieuses. Il faut des témoignages ou une lettre ou par exemple les parents aient dit... avant de partir, nous tenons à ce que nos enfants restent juifs. Quelquefois, on laissait des petits papiers à droite à gauche qu'on a plus ou moins retrouvés. Mais c'est très touchant, on n'a encore pas fini d'attribuer des médailles à titre posthume. Alors ça, cette association, ça n'est pas une médaille des justes, hein, ça n'existe plus. Nous en avions parlé au préfet et il nous avait dit, mais écoutez, Israël n'a pas le monopole de la reconnaissance, la France peut en faire autant. Monter une association. Et on a monté une association, à laquelle j'ai participé, bien sûr. Et à partir de là, on a pu justifier nos recherches. On a obtenu des messages officiels, des renseignements. On a pu aller dans les archives des journaux, aux archives départementales. Et ça nous a permis de recueillir effectivement des confirmations de ce qu'on nous avions déjà été informés. Et c'est comme ça que je pense, on continuera encore, tant qu'on est en vie, à faire cela. tant qu'il y a des gens qui demandent. Voilà. Merci Jeannette, que Dieu vous garde en vie longtemps encore. On a besoin de vous. 120 ans jusqu'à 120 ans. Merci. Alors, deux choses. Par rapport à la rafle des Marquisards, je voudrais vous dire, et dire notamment aux personnes nouvelles, que le conseil d'administration de l'amitié Annecy-Chambéry invite les membres à participer le dimanche, généralement, le dimanche le plus près du 16 novembre, puisque la rafle a eu lieu le 16 novembre 43, pour entourer les familles des... Il y a toujours des familles des victimes, disons, qui ont été déportées. Et il y a aussi quelqu'un, M. Pintel, qui lui a miraculeusement échappé à la déportation parce qu'il avait 5 ans. Et il a échappé pourquoi? Parce qu'une maman non-juive s'est précipitée, lui a pris la main et puis a dit « c'est mon enfant ».
Il y a deux enfants d'ailleurs, il y avait un autre qui, voilà. qui est au...
Ouais. Voilà, répète, extrêmement courageux parce que s'il avait été...
Et M. Pintel est actuellement le secrétaire général d'Izieux parce qu'il a été aussi à Izieux et il a échappé à la rafle d'Izieux.
Il a échappé à la rafle d'Izieux parce qu'on était venus, les voisins de Paris étaient venus le sortir quelques jours. C'est vous dire, c'est pourquoi il s'est investi à 100%. Hein. Ouais.
Donc notre présence ce jour-là, ce dimanche-là est extrêmement importante. Ça se fait à 11h et à deux endroits, mais on vous le rappellera le moment venu. Se fait devant l'hôtel des Marquisards et devant l'école du quai Jules Philippe parce qu'il y a 5 enfants qui ont été capturés et qui ne sont pas revenus. Et c'est important de témoigner notre amitié, notre affection, notre soutien fraternel à nos amis juifs. Et puis, la deuxième chose tout à fait différente, notre président nous a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de hasard. On a vu le programme conjonction. Je vais vous donner une autre illustration qu'il n'y a pas de hasard. Je viens de terminer la lecture d'un livre de Michel Tereshenko, je ne sais pas si vous connaissez, un livre qui s'appelle « Ainsi fragile vernis d'humanité ».« Ainsi fragile vernis d'humanité » de Michel Tereshenko. Celles et ceux qui sont intéressés, je vous donnerai les références. Et ce livre indique notamment que l'enquête la plus importante, la plus fouillée, consacré à l'étude des motivations de ceux qui ont aidé et sauvé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, fait ressortir leur tout petit nombre. En fait, moins de 1% de la population sous occupation nazie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui caractérise un peu ces personnes, c'est pas par hasard qu'elles sont devenues sauveteurs. L'enquête, donc il y a eu un nombre important de personnes qui ont été interrogées, et les mots qui reviennent le plus souvent dans leur vocabulaire, c'est pitié, compassion, affection, souci. Quand on connaît Jeannette, on n'est pas du tout surpris. Et cette enquête précise en fait que ces personnes manifestaient une disposition à être affectées par la peine et la souffrance d'autrui. N'étaient pas renfermés sur leurs petits soucis personnels de cartes d'alimentation, etc. La valeur centrale, leur caractéristique aussi, une forte autonomie personnelle. Là encore, quand on connaît Jeannette, quand on connaît son autonomie personnelle, elle s'estimait tenue de mettre en pratique les valeurs auxquelles elle croit, quoi qu'il leur en coûte, et c'était dit à Jeannette, quoi qu'il leur en coûte pour elle-même, ou pour leurs proches. La valeur centrale de leur existence réside dans la conscience intense, Jeannette nous a parlé de la conscience tout à l'heure, dans la conscience intense de leur responsabilité personnelle au regard du bien commun. Alors quand j'ai lu ces passages de Michel Tereshenko, je voyais se dessiner sur les pages de son ouvrage le visage de Jeannette. Tellement je trouvais qu'il y avait adéquation. Et c'est un peu, Jeannette, c'est un petit peu comme si ces lignes avaient été écrites spécialement pour vous. La conscience intense de votre responsabilité personnelle au regard du bien commun, vous n'avez jamais cessé à la fois de la stimuler et de vous attacher à, mettre en œuvre ce que votre conscience vous dictait, ce que votre conscience vous dicte. Jamais ce que vous êtes, en fait, ne relève ni d'un fragile vernis d'humanité, ni même d'un simple vêtement d'humanité. Vous êtes tout entière, votre être tout entier, pétri de l'humanité la plus lumineuse, de cette humanité qui réjouit à la fois le cœur de Dieu et le cœur des hommes. Et c'est vraiment...
J'ai vous répondu.
Un honneur et un bonheur pour chacun de nous de vous avoir au sein.
Merci de votre commentaire.
C'était vraiment de tout cœur et de tout âme à Norbert.
Merci Norbert, je suis très émue, mais vous mettez à mal ma modestie, parce que je n'en veux pas gloire, je vous assure, en affection de voir, c'est pas pour moi. Je ne suis pas du tout une héroïne, hein, je ne me présente pas comme ça du tout. Je n'ai fait ce que je devais, puis ma sensibilité chrétienne, mais mes parents étaient tout de suite résistants, ils ont été très résistants. Mon père s'est indigné, lui qui était très mal en point de reste de la guerre de 14, il était paludéen, il a été blessé, il a été gazé. Mon père a tout de suite protesté contre le relancement de Pétain. Et j'étais dans un milieu de résistants, et si j'avais pas eu de l'environnement de mes parents, mes frères, j'aurais peut-être été moi. Puis ma sensibilité chrétienne, on fait que je trouvais pas ça héroïque, je m'indignais contre les gens qui prenaient pas position, quoi. Et je rends hommage à l'abbé Follier, que vous connaissez bien, Père Barcellini. Vous m'entendez, Père Barcellini? C'est à qui je rends hommage? Je rends hommage à Camille Follier, le prêtre ouvrier du GIM que vous avez bien connu, et qui m'a talonné en me disant « Mais qu'est-ce que font les prêtres de la frontière? Ils ne se bougent pas, ils ne se remuent pas. » Et alors, et c'est sûr que c'est grâce que je suis entrée dans la résistance, parce que je n'avais pas du tout la prétention d'être une résistante, mais les circonstances ont fait que, ne pouvant pas aller à Paris pour des études que je devais poursuivre, mes parents m'ont dit, j'étais mineure, tu ne vas pas aller à Paris sous l'occupation allemande toute seule. Et donc je suis restée et je suis rentrée à la préfecture. Et là, et ben finalement j'ai eu une réponse parce que j'ai pu faire beaucoup de choses, ce que je n'attendais pas. Aider des gens, non seulement faire des cartes parce que j'avais des familles juives dont je voyais qu'il fallait absolument changer l'identité. Et j'ai commencé par là, puis après ça a été très, beaucoup plus loin. C'est un engagement qui a duré bien plus longtemps. Mais je n'en tire pas gloire, et je ne parle pas de mes médailles parce que je n'aime pas qu'on en parle. Si je les ai eues, ce sont des amis juifs qui ont demandé pour moi, mais je n'avais jamais pensé à une récompense quelconque. La plus belle récompense, c'est que j'ai pu sauver des personnes qui sont venues me le dire et qui me disent encore aujourd'hui. Et ça, c'est pour moi quelque chose de formidable d'avoir permis à des personnes de survivre alors qu'elles étaient condamnées. Voilà. C'est tout. Ah oui? Oui, il y a déjà un livre? Oui? Oui? Les armes de Jeanne. Je vais continuer parce que j'en ai écrit 200 pages, mais je compte sur mes deux auteurs, là, qui, quand je ne serai plus là, parce que je ne me permets pas de parler de ceux qui sont encore là aujourd'hui. Ce sera pour plus tard, quand j'aurai disparu, mais j'ai 300 pages qui attendent et mes deux délégués là, seront chargés, me connaissant bien, de puiser là-dedans pour mettre la suite de. Parce que à la suite de tout ça, je ne m'attendais pas à de tels événements. Nous sommes allés en Afrique du Sud où mon fils travaillait. La maman de ma belle-fille, je venais d'avoir un village juste, a dit ça à la communauté juive de Genève-Vaux. Il a fallu que j'aille, on aille chez l'ambassadeur d'Israël à Pretoria, que j'aille parler à France Internationale. Et ça m'a entraîné à des tas de choses. L'Afrique du Sud a planté un arbre en ma faveur. Et vous ne pouvez pas imaginer où ça, juste que ça m'a entraîné. Je n'imaginais pas. J'essaie de suivre, quoi. Voilà, c'est tout.
Merci Jeannette. Mais je voulais aussi que Catherine, juste quelques instants, nous témoigne qu'elle aussi, dans sa famille, il n'y a pas longtemps, vous avez eu un prêtre qui a reçu deux. Juste le dire.
Oui, donc simplement.
simplement dire que dans ma famille, j'ai deux grands-oncles qui ont reçu la médaille des justes. Donc le dernier en date, c'était il y a deux ans,
oui, il y a deux
à
ans.
Peu près. Et j'étais présente avec plusieurs personnes de l'association de l'amitié. Voilà, c'était une belle cérémonie à Villeneuve.
Oui, cet oncle était le supérieur d'une communauté religieuse.
Voilà.
Une école en bordure de la frontière.
Voilà.
Et
le maire de l'école était limitrophe avec la Suisse. Alors, on a reconstitué d'ailleurs les événements quand la première fois j'y suis allée, parce que il y avait une patrouille allemande qui circulait à pied, et puis pendant que la patrouille, il y avait 20 minutes, il fallait exploiter, alors on faisait monter même des fois des personnes âgées, avec une grande échelle sur le mur, et il fallait sauter de l'autre côté.
C'était la Suisse,
voilà, oui. Et alors, il y a eu des centaines de personnes juives et des résistants qui sont passés par là et qui ont reconnu après. Mais vous savez, j'ai trouvé dans les cérémonies de remise des médailles des justes, puisque je m'en suis occupée pendant 15 ans, et bien, j'ai des situations mais tellement bouleversantes. Je me dis, il y a quand même, je dis l'homme est capable de meilleur comme du pire, mais il y a aussi, il faut parler de celui qui s'investit dans le bien. On n'en parle pas assez.
Oui. Voilà. Je crois que vous qui êtes ici, c'est dans le bien que vous vous êtes investi en étant à notre association. Alors, on va se dire, d'abord, avant de se dire au revoir, je vous souhaite quand même un bel été, parce que si je ne peux pas le faire pour chacun tout à l'heure, de se revoir le 1er octobre. On va faire partager un repas, bien sûr, hein, et on est très heureux de cela. Il y a ici des livres, des revues, prenez-les, on note rien, mais rapportez-les par exemple en octobre, ça sera très bien, c'est fait pour ça. Avant on avait une très très grosse bibliothèque du temps de Jeannette, du temps de notre amie, mais on pouvait plus. Donc cette bibliothèque, elle est à la Puya. Alors je vous rappelle quand même, à la Puya, il y a des livres extraordinaires, aussi bien sur le judaïsme, les relations entre juifs et chrétiens, et puis plein d'autres livres que nous avions, nous, et que nous pensions qu'il était bon de faire connaître et de lire pour bien comprendre notre démarche, entre autres. Merci, et je crois que j'ai fini, moi.
Je veux juste donner un autre témoignage. Je vous ai dit en fait que il y a des non-chrétiens, des laïcs, qui organisent aussi des cérémonies en souvenir de ceux qui, des victimes de la Shoah. Et le 8 mai, la municipalité de Cran-Gevrier a organisé quelque chose de remarquablement fait en souvenir des enfants d'Izieux, des 44 enfants d'Izieux et de leurs encadrants. C'était absolument magnifique et tout à fait d'actualité, parce que on voit bien que le ciel est en train de s'embrunir à nouveau, et donc les menaces qui ont pesé risquent de redevenir plus que jamais d'actualité. Et la municipalité avait mobilisé les enfants des écoles, et il y avait un enfant avec un ballon blanc qui était spécialement mobilisé pour chacun des 44 enfants et des encadrants qui ont été déportés. Et à l'énoncé du nom, et du prénom et du nom de chaque enfant ou encadrant, l'enfant lâchait le ballon, et c'était extrêmement émouvant.
Voilà.
Mais c'est vrai que la municipalité de Cran s'est engagée à fond, et il y a une cérémonie, malheureusement, ça se chevauche avec celle d'Annecy, mais je regrette de ne pas y aller aussi souvent, parce que vraiment on mobilise la jeunesse. Et la jeunesse est motivée maintenant. Je peux dire, dimanche dernier, nous avons remis les prix aux lauréats du concours de la résistance et de la déportation, et j'étais très agréablement surprise de voir l'impact que nos visites ou disons nos témoignages ont apporté à ces élèves. De plus en plus de jeunes travaillent sur le sujet maintenant,
aussi parce que le souvenir français s'est beaucoup investi. Et il y a même une maman qui est venue, une maman qui a deux enfants à Saint-Michel, elle est venue avec ses enfants me voir, on a travaillé tout l'après-midi pour préparer le concours ensemble. Et ça m'a sensibilisée de voir que des parents s'investissent de cette manière. Encourage. Et les enfants qui paraissaient qui apparemment gâtés, mais qui n'ont pas pour autant, oui.
C'est le devoir de mémoire.
C'est le devoir de mémoire, oui, bien sûr.
C'est très important.
Oui.
Nous apprendre dans la tradition.
Petit renseignement. Puisque nous sommes en Haute-Savoie et que Catherine n'a pas donné beaucoup de renseignements sur ses deux oncles, ils étaient missionnaires de Saint-François de Sales et leur maison mère était là à Propène. Bon, et dans ce collège qui s'appelle.
J'y vais toujours d'ailleurs.
Oui, dans ce collège, il y a un père qui a fait beaucoup pour sauver des juifs et qui a été pris par les Allemands,
le père Fabre,
et qui a été fusillé à Vieux-Gy.
Oui,
avec d'autres Savoyards dont, par exemple,
oh, mais c'est une
voilà, mais
c'est
incroyable.
Il y a
voilà.
Dire, moi, là, je connais bien le père Fabre.
Oui, mais c'était pour dire que, comme vous êtes tous de la région à peu près, c'est les missionnaires de la
question concernant Madame, qui est Madame le maire de Seynon m'a demandé d'aller parler de lui un jour de cérémonie et j'ai dû évoquer ce qu'il avait fait et j'avais la copie d'une lettre.
J'avais la copie d'une lettre d'une maman, d'une dame juive qui s'appelait Mme Lévy, et qui écrivait, quand on a fusillé le père Fabre, elle a écrit à la mère du père Fabre qui habite Bellevaux, je suis allée la voir là-bas d'ailleurs. Cette maman, qui était une grand-mère en fait, à l'époque, avait sa fille unique, qui a mis au monde une fille, sa fille unique est morte en mettant l'enfant au monde. Elle élevait cette fille. Et elle habitait Paris, elle est venue dans la région avec cette fille, et quand le temps est venu de l'occupation allemande, ils étaient en danger, et elle disait, peu importe, moi je suis vieille, mais je voudrais que ma petite fille survive. Elle s'est adressée au père Fabre, et elle raconte qu'on l'y avait envoyé sans qu'elle le connaisse. Et elle dit à la mère du père Fabre, votre fils avait de si bons yeux, que je lui ai confié ma petite fille, tout ce que j'avais de plus précieux au monde, en entière confiance, et madame, je peux vous dire que je vous remercie, que je compatis une lettre d'une. J'ai la copie, je ne peux pas tout vous montrer, mais j'ai la photocopie de cette lettre, c'est bouleversant. Vraiment, il y a des situations qui sont tragiques, mais qui sont belles aussi à transmettre.
Je crois qu'on va s'arrêter là, si on veut quand même vivre autrement aussi, même si ça c'est magnifique, Jeannette, merci.
Excusez-moi, j'ai des films, si ça vous intéresse, des cassettes, avec mon entretien avec Simone Veil à Paris, entretien avec le Père des Bois, si un jour il y avait l'opportunité de les passer. Et puis je suis allée témoigner le jour de la Journée nationale des femmes à Grenoble. On est même cherché, je suis allée à FR3, et ça c'est aussi extrêmement intéressant. De parler de l'engagement des femmes aujourd'hui.
Oui,
ce sera dans une autre assemblée générale, parce que l'année prochaine, on a Shavuot avec le docteur, notre ami Patrick Chemla, parce qu'on a déjà. Mais l'année d'après, oui, puis il faut surtout y penser, puis il faut que vous m'en parliez. 2015. Ah, ça peut être même intéressant, Jeannette. En 2015, si Dieu le veut, mais ça fait un moment qu'il me pousse à Paris, il souhaite faire l'Assemblée Générale de France à Annecy. En 2015, et c'est sûr, parce qu'ils me l'ont encore redit au dernier comité directeur la semaine dernière, Eliane, on est à Annecy en 2015, c'est vous qui organisez.
Bravo,
Eliane. Pardon, c'est Eliane, comment hein. Vous allez m'aider beaucoup, hein, parce que, et justement, je pense que ça peut être, voilà, quelque chose aussi qui peut faire partie de ce qu'on pourrait montrer, de ce que une personne de notre région, vous, parce que ça tourne quand même beaucoup, forcément, l'amitié judéo-chrétienne, c'est ça, c'était Limoges autrefois, l'année dernière, et on était à Oradour, il y a tout un sens sur Limoges, sur l'Assemblée Générale, on a eu des témoignages, il y a eu des choses formidables, donc il faut voir comment
s'il vous plaît, donnez-nous des idées. Donnez-moi des idées, donnez-nous des idées pour ce que l'on peut faire, comment on pourra faire. C'est 2015, mais il faut qu'en 2014, on ait déjà tout monté. Il faut trouver les locaux, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, oui. Oui, mais bon, on verra tout ça, mais surtout des idées sur ce que l'on peut faire. On a déjà un peu des idées déjà un tout petit peu, mais voilà, voilà une très bonne idée. On pourrait projeter les témoignages de Jeannette, faire un thème, un des thèmes autour de cela. Bon, bah, pensez-y, c'est, même si c'est 2015, bien, allez à table, bon appétit, mettez à bord, préparez un pas. Les Hébraïques.